Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. C'est ce qu'on a chanté, mais est-ce que ces paroles sont vraies malgré la crise que nous vivons en ce moment? Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Est-ce qu'on peut vraiment avoir la paix en ce moment malgré les jours mauvais que nous vivons, des jours mauvais qui sont alimentés par les nouvelles quotidiennes, par l'anxiété, par la crainte de l'avenir? Ben, si nous comprenons et si on s'approprie le psaume 23, oui, on peut chanter ces paroles avec assurance, malgré la crise que l'on vit en ce moment. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin en étudiant un des psaumes les plus connus de la Bible, probablement le psaume 23. Mais avant d'aller plus loin, on a besoin, comme tout autre passage de la Bible qu'on lit, de chercher à le comprendre de la bonne manière. Parce qu'il y aurait le danger de prendre les paroles de David dans ce psaume et de se les approprier sans tenir du compte du contexte dans lequel David a écrit ses paroles et sans tenir compte du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. De penser qu'il nous serait promis ici une vie d'abondance matérielle, une vie de succès, de réussite où notre compte en banque sera toujours rempli, où on n'aura jamais d'épreuves et de difficultés. Mais dire ces choses, ce serait passer totalement à côté du sens de ce psaume. D'abord parce qu'on voit que dans ce psaume, il n'était pas question pour David d'une vie qui était un long fleuve tranquille. Au verset 4, il dit qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au verset 5, on voit qu'il est question d'ennemis, il est question d'adversaires. Alors avant de voir comment ce psaume peut nous encourager dans cette crise que l'on vit, j'aimerais juste faire trois remarques qui vont nous aider à mieux appliquer ce psaume à notre situation aujourd'hui. Trois remarques. Première remarque, David avait une relation personnelle avec Dieu. Ce psaume nous décrit la confiance que David avait en son Dieu. Et on voit dans ces versets une relation très personnelle qui est décrite. Il est clair en lisant ce psaume que David connaissait son Dieu et que son Dieu le connaissait. Et c'est pour ça qu'il peut dire avec certitude, l'Éternel est mon berger. Il avait placé sa confiance en Dieu, en l'Éternel et en lui seul. Il reconnaissait qu'il y avait un seul Dieu dans le ciel et que c'était l'Éternel. Il était le seul vrai Dieu. Et donc ce psaume ne s'adresse pas à n'importe qui, mais il s'adresse à ceux qui ont reconnu l'autorité de Dieu sur leur vie. C'est seulement dans ce contexte qu'on peut réclamer les bons soins de ce Dieu-là, comme notre berger, qui sont décrits dans ce psaume. Et si on y réfléchit, c'est juste un privilège immense. L'Éternel est mon berger. Il est question du Seigneur haut et élevé dans la gloire. Il est question du roi de gloire à qui le monde appartient, comme le décrira le psaume 24, le psaume suivant. David dit, ce Dieu-là est mon berger. Ce Dieu-là prend soin de moi. Et du coup, ça vaut le coup, je pense, avant d'aller plus loin, de se poser cette question pour chacun de nous, alors qu'on va étudier les bons soins de ce Dieu-là comme berger. Mais est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Ou est-ce que ce Dieu n'est simplement pour vous qu'un concept religieux, une habitude du dimanche, quelqu'un que peut-être votre conjoint connaît, que votre père ou votre mère connaît, mais que vous ne connaissez pas personnellement? Je vous encourage à vous intéresser davantage à la foi chrétienne et à la personne de Jésus pour voir comment Jésus peut offrir cette intimité de relation avec Dieu qui est décrite dans ce psaume. Deuxième remarque, David vivait à une autre époque que la nôtre. C'est assez évident de dire ça, ce psaume n'a pas été écrit au XXIe siècle. Et David vivait dans un contexte particulier avant la venue de Jésus, où c'était effectivement le cas que la bénédiction de Dieu se manifestait de manière physique, matérielle. C'est ce que Dieu avait dit quand il a conclu une alliance avec le peuple d'Israël. Si tu m'obéis, tout va aller bien. Tu vas vivre dans un bon pays, tu manqueras de rien. Mais si tu désobéis, ce que le peuple a fait, on apprend avec le récit de l'Ancien Testament, la juste réaction, ce sera le jugement, ce sera l'exil, ce sera l'épreuve, la souffrance, la malédiction. Et donc les paroles de David dans ce psaume, tu fais déborder ma coupe, ou je ne manquerai de rien, ont une couleur beaucoup plus matérielle pour lui qu'elles ne l'ont pour nous aujourd'hui. Parce qu'on vit à une époque bien différente après la venue de Jésus, où les questions d'une bénédiction, oui, mais d'une bénédiction qui se trouve en Christ, de bénédictions matérielles, oui, mais pas pour maintenant, pour dans la nouvelle création, pour après. Et où les questions surtout de bénédictions spirituelles, qui ne sont pas moins vraies, qui ne sont pas moins réelles. Mais donc ça veut dire qu'on veut lire ce psaume 23 à la lumière de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur la vie chrétienne, à la lumière de ce que Jésus a accompli par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça que, alors qu'on va étudier ce psaume, on va évoquer régulièrement des passages du Nouveau Testament qui nous aideront à voir comment les vérités de ce psaume s'appliquent à nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Troisième remarque avant d'aller plus loin, Jésus est notre bon berger. Ce n'est pas une surprise de dire ça, Jésus lui-même l'a dit. Dans Jean 10, il dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et donc, c'est une réalité pour nous, chrétiens, que nous avons un berger, un bon berger, qui a donné sa vie pour nous. On ne perd donc rien de la puissance de ce psaume pour nous. Au contraire, le psaume 23 décrit justement les bénéfices que nous avons du fait que le bon berger ait donné sa vie pour nous. Alors, quels sont ces bénéfices? Quels sont les bons soins de notre Père Céleste à l'œuvre dans notre vie? Je vous propose de voir ensemble, à partir de ce psaume, quatre certitudes que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, même au milieu de cette crise, de cette pandémie. Quatre vérités qui ne changent pas, auxquelles notre âme peut s'attacher. Des vérités qui nous sont décrites dans ce psaume 23. La première, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. David a été berger dans sa vie et donc, tout naturellement, il se sert de cette image pour illustrer une grande partie de son psaume. Et c'est basé sur cette image qu'il peut dire « Je ne manquerai de rien ». C'est assez logique si on y pense. Le travail le plus basique d'un berger, on pourrait dire, c'est de s'assurer que ses brebis ont ce qu'elles ont besoin pour vivre. C'est le travail le plus basique d'un berger, c'est de pourvoir à ce dont ses brebis ont besoin. Mais le fait de pourvoir dépend de la capacité du berger à donner suffisamment de nourriture à ses brebis, à trouver des verts pâturages où les amener, des eaux paisibles où les conduire. Mais si c'est l'Éternel, mon berger, alors j'ai pas à craindre de manquer. J'ai pas à craindre qu'il soit pas capable de donner ce dont ses brebis ont besoin. Il n'a pas de limite dans sa puissance. Il n'a pas de limite dans sa capacité. L'Éternel est mon berger, on pourrait dire, donc je ne manquerai de rien. Et cette affirmation, elle est basée non seulement sur le fait que Dieu est tout-puissant et donc il peut pourvoir à nos besoins, mais aussi sur le fait que Dieu est notre berger et donc il veut pourvoir à nos besoins. C'est ce que Paul dira quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, aux chrétiens de Philippe. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Alors, est-ce que c'est une promesse de jamais connaître la pauvreté? La faim, le besoin? Non, dans le contexte de ce verset, quand Paul écrit en Philippiens 4, Paul dit qu'il a traversé des moments de pauvreté, des moments où il a connu le besoin, des moments où il a connu la faim. Et il dit que peu importe ce qu'il vivait, il avait appris à être content, à être satisfait de la situation dans laquelle il était, parce que Dieu pourvoyait à ses besoins. Peut-être que pour vous, cette crise est particulièrement difficile, parce que vous vous trouvez sans activité professionnelle, sans revenus. Peut-être que vous êtes au chômage technique en ce moment et vous ne savez pas quand vous allez pouvoir retrouver le chemin du travail. Vous avez des inquiétudes dans votre cœur, de la crainte, tout un tas de questions. Mais j'espère que vous pouvez trouver de l'encouragement dans ces paroles de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il n'est pas un berger qui abandonne ses brebis, qui serait dépassé par la situation. Non, c'est un berger qui prend bien soin de ses brebis. Mais de manière plus profonde, encore plus profonde, en tant que chrétien, on peut affirmer que Dieu pourvoit et qu'on ne manque de rien. Parce qu'en Jésus, on a tout reçu et on n'a besoin de rien de plus pour être comblé. C'est ce que Paul dit à nouveau, pas aux Philippiens, mais ce coup-ci aux Romains, dans Romains 8. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ?» Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus coûteux, de plus précieux, son propre Fils, mort sur une croix pour nos péchés. À la lumière de la croix, est-ce qu'on pourrait encore douter de l'amour et de la bonté de Dieu pour nous? À la lumière de la croix, est-ce qu'on pourrait douter de sa promesse de prendre soin de nous et de nous donner tout ce dont on a besoin? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et avant de passer à la deuxième certitude de ce psaume, j'aimerais juste mettre en avant deux domaines dans lesquels on a particulièrement besoin d'affirmer l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Deux domaines qui sont un défi pour nous, et peut-être encore plus avec cette crise que nous vivons. Le premier domaine, c'est celui de la sécurité. Parce qu'on est constamment tenté de mettre notre sécurité ailleurs qu'en Dieu. Dans la réputation que j'ai aux yeux des autres, c'est à ça que je me rattache. Dans ma famille, ma petite cellule familiale, c'est ça qui fait que je me sens bien. Dans mon travail, je m'investis sans relâche dans ma carrière parce que c'est ça qui me donne le sentiment que tout va bien. Dans des projets que j'organise, dans des vacances que j'ai planifiées. Et on est agrippé à ces choses. On les tient fermes dans notre main, sans lâcher. Mais qu'est-ce qui se passe quand on perd tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand un virus chamboule tous nos plans et renverse les choses dans lesquelles on mettait notre sécurité, les choses auxquelles on était agrippé? Eh bien, on réalise, comme nous l'apprend ce psaume, qu'on doit lâcher prise sur ces choses, qu'on doit ouvrir la main, arrêter de serrer ces choses fermes dans notre main, relâcher la pression et dire à la place « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il prend bien soin de moi. C'est lui qui est ma sécurité et pas ces choses qui passent. » Le deuxième domaine où on a besoin d'entendre cela, c'est celui des craintes. Avec ce qu'on vit en ce moment, on peut facilement ressentir un nuage de crainte peser sur nous, lourdement. Parce qu'on vit dans l'incertitude. Peut-être que des projets importants de notre vie ont été annulés, on ne travaille plus. Peut-être que cette crise va impacter notre quotidien pour les prochaines années et on a du mal à savoir de quoi nos lendemains seront faits, de quoi l'avenir sera fait. On ne peut pas se planifier, on ne peut pas se projeter. Je disais cette semaine que certains parlent de confinement jusqu'en 2022. Et face à ça, on est là dans l'incertitude, dans le flou, et on se dit mais j'ai juste tellement de craintes qui me submergent. Mais là encore, on a besoin d'affirmer l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et on pousse un ouf de soulagement en disant ça, n'est-ce pas? Pas parce que le fait de le dire va l'accomplir, comme si on se répétait « Ah, tout va aller bien pour que tout aille bien », mais le fait de dire nous amène à la réalité. Parce que c'est vrai, c'est réel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc en affirmant cela, on amène nos pensées à se fixer vers ce qui est réel, vers ce qui est vrai, vers ce qui ne change pas, malgré les craintes que nous vivons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première certitude. Deuxième certitude que nous révèle ce psaume pour nous dans cette crise, il me conduit. Il me conduit, en particulier dans les versets 2 et 3. Parce qu'un des autres rôles fondamentaux du berger, en plus de pourvoir, c'est de conduire ses brebis. C'est lui qui décide où elles doivent aller parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour ses brebis. Et c'est lui qui contrôle son troupeau. Il n'est pas dépassé par ses brebis, il peut le conduire où il souhaite. Dans ces versets, il est question d'être conduit dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. C'est lié à ce qu'on a vu juste avant. Le berger pourvoit ce dont ses brebis ont besoin. Et pourquoi tout ça? Bah, la réponse de ce psaume, dans la fin du verset 3, à cause de son nom. En fait, c'est assez évident de dire que la réputation d'un berger dépend de sa capacité à prendre soin de ses brebis. Si un berger emmène ses brebis dans un repaire de loups, on va lui dire « Mais où est-ce que tu as eu ton diplôme? T'es pas à la hauteur de la tâche. » Et c'est dans ce même sens que Dieu agit à cause de son nom. Il nous dirige, il nous garde, il nous conduit dans ce qui est bon pour nous, car sa réputation est en jeu. Il doit agir conformément à son caractère. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ça qui nous donne l'assurance, qui nous conduit, qu'il dirige nos vies et qu'on peut lui faire confiance, qu'il ne va pas nous laisser tomber. Et c'est tout l'image de ce psaume, n'est-ce pas, de dire que si Dieu est le berger, non seulement c'est lui qui pourvoit, mais c'est aussi lui qui conduit nos vies. C'est aussi lui qui dirige, c'est lui qui est au contrôle. Ma vie et mes circonstances ne lui échappent pas. Et la question, ce n'est pas de savoir pourquoi il nous conduit là où il nous conduit, mais de savoir que c'est lui qui nous y conduit. Et donc, on n'a pas à tomber dans le désespoir. Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous y conduit. Dieu est au contrôle de nos vies et il n'est pas dépassé. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a conduits ici, dans cette pandémie, dans cette crise que nous vivons? Pourquoi est-ce que Dieu m'a conduit dans la situation dans laquelle moi je me trouve? Le psaume 23 ne répond pas à cette question. D'autres passages de la Bible pourraient apporter des réponses. Mais la réponse du psaume 23, c'est de dire « C'est Dieu qui conduit ta vie, alors sois en paix. » Sois réconforté dans le fait que c'est lui qui est au contrôle. Il n'est pas dépassé, il n'est pas un tyran. Il est un berger et il est un bon berger. On parle souvent de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, et on parle moins souvent des souffrances qu'il a connues, des épreuves dans sa vie. En fait, elles étaient nombreuses. Déjà, on doit dire qu'il a eu beaucoup d'opposants tout au long de sa carrière, de son ministère. Dès le début de son ministère, alors qu'il prêchait, il y a eu un mouvement de panique, quelqu'un a créé un mouvement de panique, et 7 personnes sont décédées. Il était marié à une femme qui était gravement malade pour toute sa vie, et elle n'a jamais pu l'écouter prêcher, à part au début de son ministère, et il devait prendre soin d'elle. Lui-même, il avait des souffrances physiques assez intenses, des douleurs dans son corps, jour après jour. Et en plus de tout ça, il souffrait, il luttait avec la dépression. Mais le fait pour Spurgeon de savoir que sa vie était conduite par Dieu, y compris dans ses circonstances difficiles, dans ses épreuves, c'était ça qui le réconfortait. Voici ce qu'il écrit. Ce serait une expérience très dure et éprouvante pour moi de penser que je traverse une affliction que Dieu ne m'a jamais envoyée, que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni ne m'ont été envoyées par son arrangement de leur poids et de leur quantité. Spurgeon ne savait pas pourquoi Dieu le conduisait là où il le conduisait, mais il était réconforté de savoir que celui qui le conduisait, c'était le bon berger. Sais pas si vous connaissez le cantique Il me conduit. Personnellement, c'est un chant auquel je suis très attaché parce qu'il a été un grand soutien il y a quelques années pour moi. Je vivais rien de dramatique, mais j'étais devenu chrétien il y a moins d'un an. Je vais passer dans quelques mois le bac, c'est l'examen final de fin de secondaire en France. Et puis j'avais pas mal de réflexions par rapport à l'avenir, pas mal de craintes, de questions que je me posais. J'étais devenu tout juste chrétien et donc j'avais aussi pas mal de luttes dans ma vie personnelle. Et j'étais au milieu de tout ça, et puis en plus de tout ça, je devais réviser pour mon bac, et ça c'était un sacré défi pour moi de me mettre à travailler. Mais je me souviens que alors que j'étais au milieu de toutes ces choses et que je travaillais à mon bureau, régulièrement, j'avais les paroles de ce cantique, Il me conduit, qui me revenaient à l'esprit. Et je les chantais, ces paroles, et ça m'apportait du réconfort parce que ça m'amenait à fixer mes pensées vers ce qui était vrai, vers ce qui était réel. Je voulais juste une strophe et le refrain de ce cantique. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Voilà la deuxième certitude au milieu de cette crise que nous vivons. Il nous conduit. Troisième certitude que nous révèle ce psaume 23, il me garde en sécurité. Il me garde en sécurité. Être un berger, c'est pas si facile qu'on pense. On voit les bergers sur des posters en train de siffler au soleil avec un agneau dans les bras. La scène est belle, on imagine une musique calme. Mais en fait, le boulot de berger, parfois, ça ressemblait plus à un film d'action où il fallait se battre contre des lions, contre des ours, comme David lui-même l'a fait. Donc c'était un travail difficile. Les bergers doivent garder les brebis du danger. Et le danger est réel. Et c'est ce qu'on voit au verset 4 avec l'assurance de David qui dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort ne fait pas référence ici, je pense, de manière directe à la mort, mais c'est pour évoquer un lieu de menace où on ne voudrait pas passer. D'autres versions traduisent la vallée où règnent d'épaisses ténèbres. C'est un peu l'image d'un chemin étroit entre des falaises énormes de rochers où le danger pèse, où son ombre s'approche de nous, l'ombre du danger s'approche de nous. Et David dit, quand je marche sur ce chemin-là, même pas peur, même pas peur. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? On voit dans ce verset, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Parce que Dieu est là, il n'a pas à craindre même un lieu de menace. C'est un peu comme un enfant qui aurait peur du noir. Si l'enfant il est seul dehors la nuit, il va être terrifié. Mais si son père ou sa mère est avec lui, ben, il n'aura aucune crainte parce que ses parents sont là. Et on voit avec ceci que la promesse que Dieu fait, c'est pas celle de la sécurité physique ou de l'absence de danger. Non, il est question de marcher dans cette vallée. Mais la promesse que Dieu fait, c'est celle de sa présence comme berger, quoi qu'il arrive. Et donc, on n'a rien à craindre. Et c'est cette même promesse que Jésus fait à ses disciples dans Jean 10, toujours. On a lu le début de Jean 10 où Jésus dit qu'il est le bon berger. Et quelques versets plus loin, il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. On voit dans ces versets la sécurité éternelle que l'on a en tant que chrétien. Et c'est même une double sécurité. Non seulement on est gardé dans la main de Jésus, selon le verset 28, mais aussi on est gardé dans la main du Père, selon le verset 29. Et personne ne peut nous arracher de cette main puissante dans laquelle on est gardé précieusement. Et donc on sait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, malgré la maladie et la souffrance, et même malgré la mort, notre salut est assuré, notre âme est en sécurité. Et c'est ce qu'on affirme quand on chante, comme on va le faire tout à l'heure, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Une des grandes peines de la situation actuelle, c'est le nombre de morts qu'on découvre chaque jour, qu'on entend aux nouvelles. C'est juste terrible. Et cette semaine, je lisais un article qui montrait que la mort en ce moment est encore pire que d'habitude, parce que en raison de la solitude, les gens doivent mourir seuls. Et dans cet article, il y a juste cette phrase que j'aimerais citer. Mourir seul, tel est le principal châtiment de ce virus qui ferme les paupières de tant d'humains avec une extrême brutalité. La mort est le pire ennemi de l'être humain. Mais si on peut dire que l'Éternel est notre berger, on peut aussi dire qu'on n'a pas à craindre la mort ou ce qu'il y a après la mort, parce que Dieu garde notre âme en sécurité et notre avenir éternel est certain. On raconte l'histoire de Barnhouse, qui était un théologien du XXe siècle. Il conduisait ses enfants aux obsèques de son épouse. Et alors qu'il allait, il s'est arrêté à un carrefour et il y avait un grand camion qui était garé là. Et avec le soleil, on voyait l'ombre du camion qui était projetée sur un grand champ de neige. Et donc il s'est arrêté là avec ses enfants. Il a dit, mais est-ce que vous voyez l'ombre de ce camion? Dites-moi, si vous préfériez être écrasé, est-ce que vous préféreriez que ça soit par l'ombre de ce camion ou est-ce que vous préféreriez que ça soit par ce camion lui-même? Et le plus jeune des enfants, il a répondu, bah, par l'ombre, parce que l'ombre peut faire de mal à personne. Et donc Barnhouse, le père, il a dit à ses enfants, c'est juste. Et rappelez-vous, mes enfants, que Jésus s'est laissé écraser par le camion de la mort, pour qu'il ne puisse jamais nous détruire. Votre mère vit maintenant avec Jésus. Seule l'ombre de la mort est passée sur elle. C'est juste une histoire pour nous aider à réaliser qu'on n'a pas à craindre même la mort. Oui, la mort est réelle et le fait de mourir peut faire peur. La mort n'est pas quelque chose d'agréable en soi-même. Mais en tant que chrétien, c'est que l'ombre de la mort qui passe sur nous. Là, en disant ça, c'est juste une image qui n'est pas celle de ce psaume de la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est une image pour montrer que on n'a pas à craindre la mort, parce que s'endormir sur cette terre, c'est se réveiller dans la gloire. Dimanche dernier, mon grand-père a fêté ses 90 ans. On a fêté ça par Zoom, on a soufflé les bougies virtuellement par Zoom, et il m'encourage beaucoup dans sa foi. C'est vraiment un modèle, un exemple pour moi. Et ça a été marquant ce qu'il nous a dit. Il est très faible en ce moment, il a un cancer des poumons, il est vraiment affaibli encore plus par la situation actuelle. Et il nous disait, alors j'ai pas les paroles exactes, mais je retransmets l'idée de ce qu'il a dit. Il nous disait, je ne sais pas combien de jours il me reste à vivre, mais je sais où je vais et j'ai pas de crainte. Et il nous parlait qu'il voulait rester avec nous parce qu'il nous aimait, mais qu'il était aussi tiraillé et qu'il voulait être avec le Seigneur, il voulait être avec Jésus. Et j'ai trouvé ça beau et une confiance, une assurance qu'on peut avoir en tant que chrétien. Il me garde en sécurité. Quatrième et dernière certitude dans ce psaume, sa grâce me poursuit. On voit ça dans les versets 5 et 6, sa grâce me poursuit. On a un changement d'image là, et dans le psaume, à partir du verset 5, il n'est plus question ici d'un berger qui prend soin de ses brebis, mais l'image utilisée, c'est plutôt celle d'un hôte généreux qui offre un festin à son invité. Et ce verset évoque la bénédiction. Il est question de victoire sur les ennemis, d'huile sur la tête, de coupe qui déborde. C'est effectivement le cas que David a connu à certains moments de sa vie, cela, l'abondance, la victoire, les succès. Mais c'est là qu'on doit voir que ce psaume, que l'Ancien Testament, que la Bible entière nous amène à fixer les regards vers quelqu'un d'autre que David, vers le fils de David, Jésus lui-même. Parce que ce verset 5 et ce verset 6 sont vrais de manière encore plus grande pour Jésus quand il a vécu sur cette terre. Lui, il a mérité parfaitement la bénédiction de Dieu et il a été le seul à la mériter. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite à son Père. Il faisait la joie de son Père. Il connaissait cette relation intime avec son Père. Il n'a jamais péché, contrairement à nous. Et c'est à la lumière de Jésus qu'on peut lire ces versets aujourd'hui. Parce que lui qui méritait la bénédiction, il a été fait malédiction pour nous, en étant crucifié sur une croix. Lui, le juste, il a accepté de mourir pour des injustes, pour qu'on puisse être conduit à Dieu. Il a pris sur lui la colère de son Père qu'on mérite. Il a connu le jugement. Il a connu les ténèbres. Il a connu la mort. Et puis, il est ressuscité, comme on l'a fêté dimanche dernier, comme on s'est souvenu au début de ce culte. Il est ressuscité. Il a été vivant, vainqueur sur la mort, sur le péché. 1 Pierre 2 nous dit ceci, versets 24 et 25. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. » Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le bon berger a donné sa vie pour des brebis récalcitrantes, rebelles, pour qu'on puisse lire ce psaume aujourd'hui et connaître l'Éternel, pas comme le juge qui doit nous condamner, mais comme le bon berger qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils pour nous sauver. C'est à la lumière de l'œuvre de Jésus sur la croix qu'on peut dire aujourd'hui, le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Littéralement ici, le verbe utilisé, c'est « poursuivre ». La Semeur traduit ainsi, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. » En tant que chrétien, on peut dire qu'on est pourchassé par la grâce. On ne peut pas échapper à la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous en Christ sur le calvaire. On ne peut pas échapper à la bonté de Dieu si on a cru en Jésus, rien ne pourra nous l'enlever. Et c'est cette merveilleuse réalité que Paul rappelle à nouveau dans Romains 8. Je vous encourage à lire la fin du chapitre de Romains 8, peut-être cet après-midi en famille ou plus tard dans la semaine. Je lis juste deux versets, les deux derniers versets du chapitre. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Quelle belle réalité, sa grâce me poursuit. Et j'aimerais juste terminer en vous parlant de John Patton. John Patton, il a été missionnaire aux Nouvelles-Hébrides parmi les cannibales au 19e siècle. Il a connu une vie de souffrance, en fait, assez frappante. Si vous lisez sa biographie, elle a été rééditée il y a un ou deux ans. John Patton, l'apôtre des cannibales, ça s'appelle quelque chose comme ça, édité par Impact Héritage, mais c'est vraiment une vie de souffrance où il a connu des épreuves sans nombre et on est juste impressionné de voir comment il a persévéré à annoncer l'évangile à ces personnes malgré l'opposition. Il est arrivé sur l'île en novembre 1858 avec sa femme qui était enceinte. Elle a donné naissance à un fils en février 1859, mais en mars de la même année, un mois après, sa femme est décédée. Et quelques semaines plus tard, le bébé est décédé à son tour. Il a dû lui-même, au milieu de la solitude, il était seul sur cette île, creuser les tombes de ces deux êtres qu'il chérissait. Et il écrit ceci, « Il serait plus que vain d'essayer de peindre mes chagrins. » Mais il a aussi écrit ceci, et c'est avec ça que j'aimerais terminer. « J'ai ressenti cette perte au-delà de toute conception ou description, dans ce pays sombre. Il était très difficile de se ressaisir, d'être laissé seul et dans des circonstances douloureuses. Mais je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Alors je me suis tourné vers le Seigneur pour obtenir de l'aide et j'ai continué à lutter dans son œuvre. Je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. L'Éternel est notre berger. Il est trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet dans notre vie, même au milieu de cette crise. Alors continuons, chers amis, à avancer, à continuer cette vie chrétienne, cette course chrétienne pour notre bon berger. Et on va prier ensemble pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour cette vérité précieuse que tu nous rappelles ce matin, que tu es notre berger. Qu'on n'est pas laissé sans espoir, sans rien dans ce monde, que tu n'es pas un Dieu lointain qui aurait créé le monde pour le laisser tourner par la suite, mais que tu te soucies de nous, de chacune de nos vies, que tu prends bien soin de nous. Et même si on ne comprend pas toujours ce par quoi on passe, si on ne comprend pas toujours les épreuves de notre vie, permets-nous d'être encouragés par cette réalité que tu es au contrôle, que tu es souverain, que tu es trop bon, trop sage pour te tromper dans ce que tu fais ou permets dans notre vie. Et on prie ça dans le nom précieux de Jésus, lui qui a donné sa vie pour que l'on ait cette relation privilégiée avec toi. Amen.